Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nos limites. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une vulnérabilité qui impacte la bibliothèque Images Magiques. Et pour discuter de ce sujet, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Christophe Renard.
Bonjour.
Guillaume Prigent.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Ulloa. Alors Nicolas Ruff, Images Magiques, qu'est-ce que c'est ?
Alors Images Magiques, c'est un quadriciel de traitement d'images open source extrêmement répandu. Par exemple, c'est le backend qui est utilisé par la plupart des traitements en PHP et qui sert à faire toutes sortes de manipulations type recadrage, inversion de couleur, conversion de format, etc. sur des images.
Et donc la vulnérabilité, elle consiste en quoi ?
Alors en fait, il n'y a pas une, mais plusieurs vulnérabilités. Mais on va dire que la plus importante, c'est CVE 2016-3714, aussi appelée Image Tragique, avec le site web, le nom et le logo qui va bien. Et c'est une vulnérabilité qui va permettre d'exécuter des commandes shell sur la machine où est traitée l'image. Parce qu'en fait, Image Magique va déléguer le traitement d'un certain nombre de formats à des parseurs externes. Et pour faire ça, en fait, il invoque des lignes de commande où il passe un certain nombre d'éléments de l'image en ligne de commande. Et à partir de là, si ces éléments ne sont pas correctement protégés, enfin, comment dire, sanitized en anglais, ça va conduire à l'exécution de commandes au moment du traitement. Alors, il y a d'autres vulnérabilités qui sont corrigées par la même occasion, hein, donc des server-side request forgery, de la lecture de fichiers arbitraires, de la suppression de fichiers, etc. Mais bon, c'est celle-là qui est la plus importante.
Enfin, pour le coup, qui ne sont pas corrigées, qui sont impactées.
Oui, pardon, qui ont reçu des CVE par la même occasion, puisqu'il voilà. Y a eu un audit complet qui a été fait, mais aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de correction disponible à la date de l'enregistrement.
Christophe Renard, tu voudrais ajouter quelque chose ?
Oui, c'est une vulnérabilité qui se combine, puisqu'il y a, en fait, il y a plusieurs façons de déclencher l'exécution à distance, que ce soit par le nom du fichier à traiter, que dans certains formats de fichiers, parce que, comme le disait Nicolas, Image Magique, c'est un front-end sur pas mal de choses. En interne, il traite du bitmap, donc des formats d'images qui ne sont pas vectoriels. Mais dès qu'on fait du vectoriel, il appelle des commandes externes. Et c'est dans ces traitements de formats qui contiennent des commandes de description d'action, de dessin, qu'on va avoir des exécutions en incluant d'autres formats ou en appelant des commandes externes. Qui plus est, circonstance aggravante, eh bien, il va être capable d'interpréter le type du fichier en fonction de son contenu et pas de son extension. Et donc, si on lui donne un fichier GIF falsifié qui contient en fait un fichier MVG, par exemple, eh bien, il va être capable de le traiter comme un MVG et donc de déclencher l'attaque. Donc, on a une surface d'attaque qui est très importante et qui peut difficilement être réduite en filtrant en amont.
Quels sont les logiciels qui utilisent Image Magique sans que nécessairement l'utilisateur du logiciel sache que par derrière, il y a l'utilisation de la bibliothèque Image Magique?
Absolument tout ce qui traite des images utilise Image Magique. À part, il y a un concurrent qui s'appelle Graphics Magic, qui est un fork réalisé il y a quelques années, qui lui apparemment serait aussi vulnérable, mais uniquement dans le cadre de traitement PostScript, parce qu'il appelle...
Gnuplot.
Gnuplot ou GhostScript, je ne sais plus.
GhostScript.
Mais globalement, si tu fais du traitement d'image sous Linux, t'es quasiment sûr que ton logiciel va utiliser Image Magique. Donc à partir du moment où tu gères un forum en ligne, où les utilisateurs peuvent envoyer des photos, ou si tu justement héberges des photobooks ou des choses comme ça, ou si tu es au coin de la rue, t'as une borne d'impression sur laquelle tu peux insérer une clé USB et imprimer tes photos de vacances, ou dans ta voiture, où tu peux changer le fond d'écran de l'écran de ton autoradio, à partir du moment où c'est du Linux embarqué, tu as une très forte probabilité pour qu'il y ait de l'image magique derrière.
Moi, personnellement, sur ma voiture, je ne dirais pas quel est le modèle. Quand on va dans les About License sur le Media Center, GPS, radio, téléphone et tout ça, on peut changer le fond d'écran pour avoir sa photo avec une petite clé USB. Et donc, c'est Image Magique qui gère ça. Donc, ça mériterait d'être creusé un petit peu.
Non, mais là, c'est très intéressant parce que tu vas pouvoir avoir accès à la centrale de ta voiture alors que c'était pas prévu à l'origine dans les fonctionnalités.
Alors il y a d'autres moyens pour le faire, mais oui, c'était pas prévu.
Enfin, là, c'est vraiment, si tu arrives à insérer une clé USB et exécuter des commandes sur une machine Linux,
c'est énorme.
Surtout sur des systèmes qui sont jamais patchés, c'est très intéressant.
On peut donc en conclure qu'il s'agit d'une vulnérabilité dont l'impact est très très fort.
Bah, c'est toujours pareil, c'est pas la fin de l'Internet, mais enfin, il y a quand même un paquet de forums PHP qui vont souffrir, quoi.
Et non, mais il n'y a pas que PHP. Je veux dire, aujourd'hui, tu sais pas du tout. Il y avait une émission sur les web développeurs tu sais pas du tout quels sont les composants qui sont utilisés sur le. Toi, t'as ton front-end, tu dis je veux envoyer mon avatar ou ma photo. Alors, tu t'envoies ta photo, on te propose de l'accroper pour respecter le format. Voilà, tu dis que tu cliques, t'as un appel jQuery. Derrière, qu'est-ce qui se passe côté serveur? Personne ne le sait. Donc, c'est juste énorme en surface.
Ça, c'est des gens sérieux, donc ils vont probablement prendre les mesures nécessaires. Par contre, c'est clair que t'as toute une longue taille de l'Internet qui attend les patchs, et comme les patchs ne sont pas encore disponibles.
Non, mais par exemple, est-ce que quelqu'un a testé sur les sites connus, comme l'ensemble des réseaux sociaux, même ceux un peu exotiques?
Ce serait illégal, Hervé.
Ah, pardon. Il n'y a pas le droit de faire ça.
Ah, c'est juste une photo qui est mal formée, c'est pas de ma faute.
Ouais, mais c'est pas un bug bounty, tu peux pas. Enfin, je veux dire, c'est. Il n'y a pas le droit de faire ça.
Bon, alors, est-ce qu'un patch est disponible?
Ben, curieusement, non. Il y a une mise à jour du fichier policy.xml qui permet d'interdire un certain nombre de choses. Mais à l'heure actuelle, il y a des formats de fichiers en fait, qui autorisent, by design, l'accès à des ressources externes ou l'inclusion de fichiers depuis le disque dur. Donc, en fait, ce n'est pas forcément évident de faire un patch générique qui va corriger toutes les failles trouvées tout en gardant la fonctionnalité complète d'Image Magic, c'est-à-dire le support de tous ces traitements externes de fichiers que Image Magic ne sait pas traiter lui-même. Ça demande quand même de ré-engineer le logiciel, c'est pas juste un one-liner.
Christophe Renard, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce genre de choses n'arrive plus?
Je pense qu'on va finir par arriver à convaincre les développeurs qu'il faut développer paranoïaque et qu'il n'y a pas de code de bon. La plus belle librairie et la mieux écrite du monde contient des bugs, et parmi ces bugs, il y en a qui sont exploitables plus ou moins gravement. Donc là, il faut développer en isolant les morceaux de programme de manière à ce que quand un morceau est compromis, la totalité du programme ne soit pas, et du programme pas le système, et du système pas son environnement.
Hervé Schauer, tu voudrais ajouter quelque chose là-dessus?
Non, mais ça, la sécurité dans les développements, c'est un peu pieux. Là, ce qui est intéressant, c'est la problématique d'appel à des commandes externes. Et les appels aux commandes externes ont toujours été un énorme danger. Et donc, idéalement, il faudrait complètement remplacer cet appel à des commandes externes pour avoir une bibliothèque beaucoup plus intégrée qui permette de traiter la totalité des formats d'image sans faire de l'exécution de commandes externes, qu'on n'arrivera jamais à contrôler totalement avec une option et des tas de choses qui sont difficilement prévisibles.
Voilà. Après, il y a des logiciels qui sont bien architecturés. Je pense à Google Chrome, par exemple. Tu ne peux pas le faire tomber avec une seule vulnérabilité. Tu as un certain nombre de processus qui communiquent via des IPC, qui ont chacun des droits restreints. Sous Linux, il y a du seccomp BPF, etc. Donc, je crois qu'il y a effectivement peu de logiciels qui utilisent des architectures résilientes, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible.
En fait, ce qu'il faut bien voir dans Image Magique, parce que sinon ça va être un peu le troll sur les développements open source, avec les failles, et puis qui impactent tout le monde, parce que tout le monde prend du gratuit, et ça m'énerve un petit peu. Mais c'est que les gens de Image Magique travaillent sur du RAW. D'accord? Donc eux, ils sont là pour faire du traitement d'image sur du RAW binary. Donc tout ce qui est externe, les formats SVG, MVG, tout ça, c'est pas leur problème. Ils sont pas là pour développer des parseurs, tout ça. Donc ils s'appuient sur des briques ou des bouts de code ou des parseurs plus ou moins bien. Et donc en fait, c'est vrai que le débat sur l'architecture logicielle est un vrai sujet, parce que aujourd'hui, des architectures logicielles basées sur des microservices avec des restrictions de droits par appel et des choses, ce qu'évoquait Nicolas là, typiquement, c'est un moyen. Mais aujourd'hui, Image Magique, c'est ultra monolithique. C'est compliqué.
Oui, mais il faut voir à l'époque à laquelle ça a été développé. C'est un logiciel très ancien. Et dans le cadre d'un logiciel libre, puisque les fonctionnalités sont remplies, personne ne voit l'intérêt de reconcevoir complètement avec une architecture plus moderne.
Ah, mais là, faut tout péter. Et qui paye ça? Et qui fait ça?
Personne.
Tu peux même pas tout péter, parce que même si tu réécris tout, il faut que tu conserves la compatibilité avec l'API d'origine. C'est comme les gens qui veulent remplacer OpenSSL. Si t'es pas compatible avec l'API, ça veut dire que tous les logiciels qui dépendent doivent être écrits, donc c'est juste pas faisable. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette faille, enfin, pour troller l'open source, c'est qu'apparemment elle existe quand même depuis très 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 longtemps, et elle a été découverte uniquement parce que mail.ru commençait à être exploité par des attaquants. Donc en fait, quelqu'un a fini par regarder, et qu'est-ce qu'il a fait avec sa faille? Ben, il a commencé à pirater des gens plutôt que d'aller voir un bug bounty ou de contribuer au projet open source. Donc ça veut dire que d'un côté, l'open source, ça marche puisque les gens trouvent les bugs. De l'autre côté, une fois qu'ils trouvent les bugs, qu'est-ce qu'ils en font? Ça, c'est la partie un peu plus sombre.
Bah, l'open source, c'est super, mais il n'y a juste personne qui contribue. Si tous les pentesters, tous les experts que vous êtes, tout ça, commencez à développer un petit peu et puis faire de l'audit de code ou analyse. Moi, je ne comprends même pas qu'il n'y ait pas d'analyse de code.
Ah, mais...
public ou privé, ou je sais pas, de composants critiques sur les infrastructures.
Non, mais attends, là, il y a quand même des projets, hein.
Des projets, oui, mais on est en 2016.
Il y a eu Coverity qui avait proposé qui avait fait des audits même sur le noyau Linux. Il y a des projets qui intègrent du fuzzing automatique maintenant. C'est intégré dans l'LVM.
Coverity, c'est gratuit pour tous les logiciels libres.
Oui, ils ont passé le noyau Linux dans leur outil gratuitement. Quoi. Donc il y a des efforts, mais après le problème, c'est qu'une faille comme ça, un outil automatique ne va pas te la trouver. Parce que ça fait partie de la fonctionnalité normale du logiciel, quoi, d'exécuter des commandes.
Non, mais c'est pas un problème d'outil automatique, c'est un problème de sociétal, enfin, je veux dire, d'enjeu. Pourquoi il n'y a pas plus d'efforts qui sont faits pour dire, bah voilà, c'est une librairie utilisée à 90% dans le monde, on va peut-être commencer à regarder ce qu'elle fait, et s'il y a des méchants qui trouvent quelque chose, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quoi. OpenSSL, oui. Image magique.
Oui, voilà. Oui, mais là, tu touches à la vulnérabilité humaine, donc le sujet nous dépasse.
Non, mais ah, bah oui, pas... mais bon, dans ce cas-là.
L'Europe a 50 milliards d'euros à mettre là sur le projet 2020 cybersécurité, je sais pas quoi, donc ça va t'en faire des audits.
Non, mais ça serait mieux que ça fasse des développeurs.
Oui, parce que derrière l'audit, il faut traiter les vulnes et c'est généralement pas mal de boulot. Surtout quand c'est de l'automatique et qu'il faut qualifier les 2 milliards de messages quand t'es remonté.
Bah, tu prends 90% des développeurs et tu les mets derrière les emails déjà pour traiter les messages, donc il n'y aura pas beaucoup de boulot de fabriquer.
Bon, alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut préconiser à nos auditeurs?
Alors, le patch officiel, c'est de mettre à jour policy.xml pour interdire un certain nombre de formats de fichiers et d'opérations. Ça reste quand même une rustine et il est probable que ce soit assez facilement contournable. Et après, si on considère que le patch officiel ne fonctionne pas ou qu'on peut pas l'appliquer à cause de son cycle de mise à jour, à partir de là, il faut commencer à faire du coding, de la défense en profondeur dans ses développements logiciels.
Et alors, dans quel cas être suspicieux déjà?
Tout logiciel qui va accepter des traitements, des soumissions d'images depuis l'extérieur, ou des traitements d'images depuis l'extérieur. Donc, ça peut être un serveur web ou une borne sur laquelle tu peux insérer une clé USB ou des choses comme ça.
Mais du coup, avec des composants externes type WAF, HIPS et tout ça, il n'y a pas moyen de faire des regex, des trucs comme ça ou...
Ouais, non, c'est impossible. Enfin, je veux dire, si ça marchait, ça se saurait.
Non, mais alors... quand tu vois le nombre de variantes qui peut exister pour exécuter une commande shell, ça me semble assez délicat de faire ça à la base de regex.
Mais... Alors, il y a des équipements qui sont capables de faire ce qu'on appelle du virtual patching, qui certes ne vont pas apporter une sécurité à 100%, mais de là à dire qu'il est impossible d'apporter de la sécurité avec ces équipements, je pense qu'Hervé, tu vas un petit peu loin.
Mais non, c'est la seule solution, c'est de tout cloisonner dans des bacs à sable le plus possible.
Oui, mais entre apporter une sécurité à 100% et limiter le risque, il y a quand même une différence.
Ton HIPS, il va détecter qu'il y a quelqu'un qui arrive à exécuter quelque chose sur ton back office. Non, mais tu rêves.
Ben, si tu regardes la vulnérabilité, en fait, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, sur la première, il y a une URL avec derrière point-virgule pipe et la commande. Point, ça peut être d'autres choses.
Mais il y a
plein
d'autres manières d'exécuter.
Mais voilà, il y a pas mal d'autres possibilités pour injecter des commandes. Mais n'empêche qu'il n'y en a quand même pas une infinité.
Oui, mais donc, le format de fichier en lui-même va te permettre, si tu veux faire l'encodage BAS64 ou si tu peux nester les commandes à l'infini, tu vois, le PostScript est quand même Turing complete. Donc c'est un langage de programmation. Tu peux construire ton payload caractère par caractère. Et le seul moyen de le détecter, ça va être d'avoir toi-même un interpréteur PostScript pour comprendre ce qu'il essaye de faire. Pour moi, il y a des solutions beaucoup plus simples, à base simplement d'audit D sous Linux. Tu peux loguer la création de processus et juste vérifier si jamais ton image magique qui a spawné un bash, le bash va pas respawner un autre process type netcat ou autre, ou wget. Et là, tu peux commencer à avoir peur. Et ça, bon, ça suppose un peu de traitement de log, mais c'est une minute à activer sur un
Linux. Ça, c'est simple.
En compliqué, mais efficace, il y a SELinux. Hein. En rajoutant des règles SELinux et en typant le processus qui exécute l'image magique, normalement, il ne devrait pas être capable d'aller spawner un bash.
Alors, je crois que Tomoyo Linux est meilleur de ce point de vue-là, parce que, si je me souviens bien comment ça marche, tu peux autoriser l'exécution de bash, mais seulement dans un certain contexte. C'est-à-dire que depuis ton interface, depuis un SSH ou un Telnet ou depuis ton data GUI, tu vas pouvoir le spawner. Par contre, tu pourras l'empêcher d'être spawné depuis un process image magique ou un interpréteur PHP.
Oui, de toute façon, on peut le faire avec du Tomoyo, du App Armor, du SE Linux ou du GRStack si on l'utilise. Je pense à SE Linux surtout parce qu'il est disponible sur toutes les Red Hat et dérivés, donc il est quand même assez couramment sous la main, même s'il est sous-utilisé.
Très bien, on a fait le tour. Bon, eh bien, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Bien à vous.